Donc on est une entreprise d'environ 45 employés. On va passer une cinquantaine d'ici quelques mois. Il y a une grande diversité de métiers. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de mon exposé. Il y a des physiciens, des particules, des accélérateurs nucléaires. Il y a des chimistes qui travaillent sur différentes aussi domaines nucléaires, aussi organiques, métallurgistes. Et il y a aussi des ingénieurs, donc thermohydrauliques, mécaniques, beaucoup de choses, ingénieurs en génie civil également. Et on a une grande diversité aussi culturelle, puisqu'on a 19 nationalités qui se côtoient dans l'entreprise. Donc vous imaginez, la langue de travail est plutôt l'anglais. On travaille uniquement en anglais et on a beaucoup aussi d'interactions avec, on va dire, d'autres instituts internationaux pour ce projet. Une des particularités, c'est que ce projet est entièrement financé de manière privée. Donc on n'est pas un institut de recherche. On a beaucoup de travail qui est dédié à la recherche de fonds auprès de fonds privés, des fonds d'investissement. La plupart des fonds viennent des États-Unis, où là, il y a justement des groupes qui sont prêts à prendre des risques pour financer des projets innovants. Donc ça, c'est une grosse partie du travail dont je ne vais pas me parler aujourd'hui. Mais juste pour vous donner une idée de pourquoi ces fonds investissent dans des startups, ce n'est pas uniquement pour le projet final et le produit final qui est développé dans la startups, c'est aussi pour toutes les technologies qui seront développées au cours du développement du concept de la startup qui génère justement de la valeur et peut être commercialisée par la suite. C'est justement un des points importants pourquoi ces fonds d'investissement investissent dans ce type de compagnie. La compagnie est basée à Genève. L'avantage d'être à Genève, c'est que on est juste à côté de la France, donc il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de France pour travailler chez nous, parce qu'il y a aussi voilà, beaucoup de compétences en France dans le nucléaire, comme vous le savez. Et on peut aussi parler au monde entier, donc on travaille avec les États-Unis, avec l'Allemagne et plein d'autres pays. Le président est Franklin Servan Schreiber. Il est français. Son père était ministre, donc le nom est assez connu pour un certain nombre d'entre vous. L'avantage, c'est qu'il est très bien connecté pour la recherche de fonds, donc ça aide beaucoup. Et on a aussi un comité scientifique de renom avec des noms. Des personnes qui ont travaillé dans le nucléaire depuis un certain nombre d'années et qui nous aident beaucoup pour le pilotage de ce projet. Maintenant, je vais vous parler donc des motivations, de pourquoi on fait ce projet. Et après, je vais vous dire quel est ce projet exactement, mais vous allez comprendre en regardant les motivations pourquoi on développe ce système. Donc, il faut savoir que Transmutex a été fondé en 2019. En 2019, on parlait encore d'arrêter le nucléaire, du fait qu'on n'allait plus besoin voilà, développer des nouveaux systèmes. On a toujours été persuadé du contraire, mais et je pense que là, ça nous a donné raison en 2020, enfin avec la COP 2028 et l'annoncement du triplement du nucléaire. On aura besoin de ce type d'énergie pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais maintenant que l'on arrête le nucléaire ou pas, la question reste la même: qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires? Et donc, si on triple le nucléaire, il y a plusieurs choses qu'il faut regarder. Déjà, d'où vient la quantité, l'uranium, enfin le combustible pour faire tourner les réacteurs nucléaires? Donc, si on triple le nucléaire, on a besoin de beaucoup plus de ressources, en tout cas dans le cycle tel qu'il est conçu actuellement. Il y a aussi des tensions géopolitiques, comme vous le savez actuellement, et ça constitue une fluctuation non négligeable du prix de l'uranium pour faire tourner les centrales nucléaires. Il faut aussi prévoir l'avenir, puisque ce sont des technologies qui vont durer 40, 50 ans, même 60 ans pour certains réacteurs. Et déjà maintenant, il y a des producteurs d'uranium. Kazatomprom, c'est le plus gros producteur d'uranium actuel, qui ont déjà annoncé qu'en 2030, donc c'est dans 5 ans, ils auraient du mal à répondre à la demande en uranium. Donc il y a aussi des choix et de la diversification à apporter pour la ressource en uranium. Ensuite, une fois qu'on a irradié le combustible dans les réacteurs nucléaires, il y a la gestion des déchets. Je prends ici l'exemple des États-Unis. Les États-Unis produisent actuellement environ 2000 tonnes de combustible usé chaque année. Si on triple le nucléaire, ils en produiraient environ 6000 tonnes par année. Ils ont un projet d'enfouissement géologique profond pour le combustible usé qui fait environ 60 000 tonnes de capacité. Donc tous les 10 ans, en considérant un triplement du nucléaire, il faudrait avoir ce type de projet, construire un dépôt géologique profond aux États-Unis. Il faut savoir qu'en 2008, car le projet était arrêté, il n'a même pas été mené à son terme, il était estimé à environ 100 milliards de dollars. Donc, en regardant ces différents problèmes, on s'est dit qu'il y avait sûrement des choses à faire, à la fois sur la partie uranium, mais aussi sur la partie déchets. La chance que l'on a, c'est qu'on n'est pas les premiers à y penser. Il y a déjà d'autres études, d'autres grands laboratoires qui ont y pensé, notamment aux États-Unis, le laboratoire Argonne National Lab, qui a fait une très belle étude justement sur ce dépôt géologique profond et a montré qu'en fait, si on pouvait transmuter, séparer le combustible usé, récupérer la matière qui était réutilisable, la transmuter, on pouvait augmenter la capacité de stockage de facteur 5 à 225 en fonction du type de retraitement du combustible. La transmutation aussi des déchets à vie longue permet aussi de réduire la durée de vie des déchets. Donc on passe de entre 300 000 ans et 1 million d'années, selon ce que l'on considère, à environ 500 ans de durée de vie des déchets, pour la radiotoxicité des déchets. Donc ça, ça a un impact fort sur les exigences de sûreté aussi des dépôts géologiques profonds. On peut garantir aujourd'hui jusqu'à 1000 ans, l'étanchéité des colis de déchets vitrifiés. Donc, justement, en plongeant un peu plus dans cette étude, ici, vous voyez l'impact que peut avoir le retraitement et la transmutation. En fonction de si l'on extrait certains éléments, comme le plutonium, l'américium ou le curium, des déchets, le césium ou le strontium, qui sont plutôt des produits de fission issus de la fission de l'uranium 235, on peut arriver à augmenter la capacité de stockage jusqu'à 225. Pourquoi on augmente la capacité de stockage? Parce qu'en fait, on réduit la chaleur résiduelle. Donc là, la chaleur produite dans les colis de déchets, on peut juste les concentrer un peu plus pour les stocker de manière sûre. Sous terre. Ensuite, en termes de radiotoxicité, la durée de vie de la radiotoxicité, si on retire les éléments tels que le plutonium, l'américium pour les transmuter, alors on peut réduire la durée de vie des déchets. En fonction de l'efficacité du retraitement, on voit qu'on peut réduire initialement plusieurs centaines de milliers d'années à quelques centaines d'années pour la durée de vie. Comme je l'ai dit, si on garantit des déchets avec une durée de radiotoxicité inférieure à 1000 ans, on peut garantir l'étanchéité des colis de déchets. Donc, il y a des solutions qui existent pour améliorer le nucléaire, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a voulu proposer avec Transmutex dès le départ, c'est comment essayer d'améliorer le système. Si on veut voir le nucléaire se déployer, on va avoir besoin de beaucoup d'énergie, on va avoir besoin d'énergie pour tout ce qui est intelligence artificielle par exemple, tout ce qui est numérique. Si on veut convertir les voitures en électrique, on va avoir besoin d'énergie. Tout ça va demander énormément d'énergie et donc du nucléaire. Mais le nucléaire a aussi des problèmes qu'il faut reconnaître. Et ce n'est pas seulement un problème qui est national, ça va être international. Il y a de nombreux pays qui cherchent à se développer, qui cherchent aussi à développer le nucléaire et qui vont avoir besoin aussi de ce type de technologie pour gérer les déchets nucléaires. Donc, ce que l'on souhaite développer, c'est une technologie qui soit non proliférante. Non proliférante, ça veut simplement dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser la matière produite pour des applications militaires. Donc il faut apporter des garanties au niveau international que la matière ne pourra pas être utilisée ou le système ne pourra pas être utilisé à des fins autres que pour la production d'énergie. Ensuite, il y a l'aspect durabilité. Je viens d'en parler assez longuement, j'ai bien insisté dessus. Il y a à la fois la partie combustible, donc d'où on tire la matière, l'uranium, comment limiter l'impact justement de l'impact des mines d'uranium sur l'environnement, comment réduire la quantité d'uranium que l'on a besoin, et comment réduire aussi la quantité de déchets que l'on produit. Donc, c'est justement ce que l'on entend par durabilité. Ensuite, il y a l'aspect économique. Pour développer un système comme le nôtre, on peut faire un système qui soit un outil scientifique, mais on ne verra pas le déploiement large de ce type de système si économiquement il n'apporte pas un profit. Et c'est un point très important dans le choix de nos technologies aujourd'hui. Il y a des systèmes qui sont développés similaires aux nôtres actuellement, mais qui sont plus des outils scientifiques que des outils industriels. Et donc quand on combine ces trois critères et qu'on regarde quel type de système pourrait être développé, alors on arrive à cette conclusion, en tout cas nous sommes arrivés à cette conclusion. Il faudrait aussi utiliser le thorium, pas simplement l'uranium. Le thorium est un autre élément que l'uranium. Il produit très peu de déchets à vie longue et permet de transmuter de manière efficace les déchets produits par l'uranium, qu'on appelle les transuraniens. Ensuite, le recyclage. Il faut aussi permettre de recycler le combustible usé. Le combustible usé contient énormément de matière qui peut être recyclée et ce serait dommage de l'enfouir directement sous terre. Maintenant, le recyclage présente des problématiques liées à la prolifération. On pourrait séparer typiquement le plutonium pour des applications militaires. Et donc, il faut investir dans des technologies qui sont non proliférantes ou en tout cas montrent moins de risques de prolifération que les technologies qui sont utilisés aujourd'hui. Donc pour ça, vous verrez, on a fait le choix d'une technologie qu'on appelle pyroprocessing, qui a été développée initialement par Argonne National Lab aux États-Unis. Ensuite, il faut transmuter les éléments à vie longue, venant des déchets, il faut bien en faire quelque chose, les détruire, en quelque sorte. Et donc pour ça, on a besoin d'une machine. Dans notre cas, on a choisi un réacteur piloté par accélérateur. Donc ce type de système permet de brûler de manière efficace, le plus efficace, les déchets nucléaires, les déchets à vie longue, qu'on appelle les transuraniens. Et donc, c'est la combinaison de ces trois éléments qui va nous permettre de, disons, simplifier ou éliminer certains problèmes liés au nucléaire. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas fait le choix de travailler simplement sur un réacteur. On travaille sur l'ensemble du cycle. Donc le projet, il est très très ambitieux pour une start-up. Donc imaginez pas qu'on est tout seul à travailler à 40 personnes dessus. On a beaucoup de collaboration avec des laboratoires nationaux, notamment aux États-Unis. Et différents pays, en Italie, en Allemagne, pour justement mener à bien ce projet. Donc comme je l'ai dit, on veut travailler sur le cycle. avoir un cycle du combustible qui est plus vertueux, moins proliférant, qui génère moins de déchets, utilise moins de ressources. Avec les résultats que l'on a actuellement avec notre machine, ici, voilà ce à quoi on pourrait arriver. Donc, si je prends l'exemple de 3 réacteurs de 1 gigawatt, c'est à peu près la puissance que l'on a pour les réacteurs à eau pressurisée, on a à peu près 1 gigawatt. Les déchets produits par ces réacteurs pourraient être consommés par 5 réacteurs STAR, donc ce sont des plus petits réacteurs de l'ordre de 200 mégawatts électriques. Et donc, on pourrait consommer l'ensemble des déchets produits par 3 gigawatts de puissance de réacteurs classiques. Mais on a aussi conçu le système pour produire à partir de ces déchets du combustible qui pourrait être réinséré dans le cycle, donc réinséré dans d'autres types de réacteurs. Donc ça nous permet de réutiliser typiquement l'uranium-238 qui est extrait des déchets nucléaires et de les réinsérer dans les réacteurs. Ça permet ainsi d'avoir une fermeture complète du cycle et d'utiliser entièrement toute la matière tout en limitant la quantité de déchets. Vu qu'on réutilise aussi une partie du combustible, on a besoin de moins de ressources in fine et donc moins d'activité minière, moins d'impact sur l'environnement. Comme je l'ai dit, c'est un projet qui est très ambitieux parce que ça impacte. Enfin, on a besoin de développer un réacteur, technologie de recyclage, fabrication de combustible innovant. Donc c'est un projet qui est très ambitieux et très long. Mais pour nous, c'est la seule solution pour essayer d'améliorer le cycle tel qu'il est actuellement. Je disais aussi qu'on n'était pas seul et qu'il fallait un cycle non proliférant. On travaille aussi, par exemple, avec l'AIEA pour s'assurer que tous les safeguards, donc c'est les contrôles pour limiter la prolifération, sont bien implémentés dans le système. Et que les systèmes qui existent actuellement vont pouvoir s'appliquer aussi à nos installations. Cela permettra de déployer le système largement, notamment dans les pays qui n'ont pas accès à l'arme nucléaire, et limiter le risque justement de prolifération des armes nucléaires. On travaille aussi avec diverses agences, notamment en Suisse. On a travaillé avec l'agence de gestion des déchets nucléaires qui s'appelle la NAGRA. C'est l'équivalent de l'ANDRA en France. On a eu accès à tous les la composition des déchets nucléaires en Suisse. Et on a pu évaluer l'impact avec des cas concrets en installant un réacteur en Suisse. Quel serait l'effet de transmuter les déchets pour la Suisse? On arrive dans ce cas-là à un facteur de réduction en volume de 6 et un niveau de radioactivité réduit à environ 800 ans au lieu de centaines de milliers d'années. On l'a également réalisé pour l'Allemagne. Pourquoi l'Allemagne? Parce qu'on a aussi des possibilités d'installer la machine en Allemagne. Et l'Allemagne, bien qu'ayant complètement arrêté le nucléaire, a toujours des déchets et doit en faire quelque chose. Donc on a étudié la possibilité de justement réduire la quantité de déchets et la durée de vie de ces déchets en Allemagne. On arrive à un facteur de réduction de presque 9 en termes de volume et à une durée de vie des déchets réduite à 830 ans. Donc ça, je ne vais pas vous faire toute la présentation de cette étude. C'est une étude qui a été publiée récemment en Allemagne qui fait 250 pages. Je vais vous épargner tous les détails de cette étude qui était assez complète, tant sur le point économique, légal, mais aussi technique pour le retraitement de ces déchets. Je vais parler plutôt du cas de la Suisse, qui est plus simple, et vous expliquer un peu pourquoi on arrive à ces résultats-là. Donc si on prend le cas de combustible usé qui viennent d'un réacteur Betzna en Suisse, c'est un réacteur aussi. Qu'est-ce qu'on a dedans? Une fois qu'ils sont usés, on a environ 1,4% d'éléments transuraniques. Donc c'est ce qui est plutonium, uranium, plutonium, américium, curium. C'est tous les éléments plus lourds que l'uranium. Ensuite, on va avoir un peu plus que 3%, donc presque 4% de produits de fission. Donc ça, c'est les produits, les éléments qui sont issus de la fission de l'uranium. Donc là, on a des éléments tels que césium, strontium, technétium. Et le reste, 95%, c'est de l'uranium. En Suisse, le recyclage des déchets, pour le moment, est interdit. Et ce qui est prévu, c'est de stocker directement les déchets, le combustible usé, sous terre. De notre point de vue, enfouir 95% d'uranium sous terre, alors qu'on a dû le miner et que c'est encore une source d'énergie importante, est un non-sens. C'est pourquoi on développe ce système. Donc bien sûr, les transuraniques, qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Donc on va les transmuter dans le réacteur, ça va produire de l'énergie. Il y a certains produits de fission, ceux à long terme, que l'on souhaite aussi transmuter pour réduire leur durée de vie. Il y a d'autres produits de fission, comme le krypton, le rhodium, le césium ou le strontium, qui peuvent être utilisés pour d'autres applications. Actuellement, il y a des gros besoins au niveau de l'industrie ou de la médecine. Et le reste des produits de fission serait vitrifié. Dans ce cas-là, pour environ 10 assemblages de combustible, on arrive à 2 colis de déchets. Donc on a une réduction massive du volume. Et en plus, la durée de vie est réduite autour de 500 ans. Donc si on regarde d'un peu plus près qu'est-ce que l'on a dans un assemblage de combustible, au final, on a les éléments de structure, la gaine et quelques métaux nobles. On a le colis de déchets vitrifiés. On a du césium et du strontium qui peuvent être utilisés pour des sources médicales ou pour l'industrie. On a du rhodium, qui est un métal qui coûte assez cher, des gaz nobles aussi pour l'industrie. De l'uranium recyclé qui peut être réinjecté dans le cycle pour l'utilisation en réacteur à eau pressurisée. Et les éléments qui peuvent être transmutés dans le start, dans le réacteur. Donc, maintenant, au lieu de stocker directement des assemblages de combustible, on pourrait stocker directement des colis de déchets vitrifiés. Ça réduirait le volume d'un facteur 6, donc on augmenterait la capacité de stockage d'un facteur 6. On passe de 1930 conteneurs à environ 313. On a aussi 370 conteneurs pour les éléments de structure dans ces cas-là et une durée de vie des déchets de 810 ans. Donc si on voudrait transmuter tous les déchets en Suisse à partir du moment où on arrête les réacteurs nucléaires, parce que c'est ce que prévoit la Suisse, d'arrêter ses réacteurs nucléaires une fois atteint la durée de vie maximum, on aurait besoin de 6 réacteurs de type START. Ils produiraient aussi de l'uranium-233 qui pourrait être réutilisé pour assurer le rechargement en combustible d'un réacteur suisse qui s'appelle Gosgen, qui est environ d'un gigawatt. Et on aurait, comme je l'ai dit, donc un facteur 6 de réduction en volume et une durée de vie des déchets de 810 ans. Maintenant, je vous ai présenté un peu les résultats de qu'est-ce que le système peut faire, mais à quoi ressemble ce système, quelle est la magie derrière ce système, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà une illustration du système. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a besoin de tous ces éléments. Donc sur un même site, on a besoin d'avoir des installations de combustible qui peuvent retraiter le combustible usé et produire un combustible neuf contenant les éléments transuraniques pour les transmuter dans le réacteur. Ça, c'est impératif. Pourquoi sur le même site ? Parce qu'on a besoin de transporter entre le réacteur et l'installation de combustible des éléments radioactifs et les transporter en dehors d'un site nucléarisé, ce serait impossible dans beaucoup de pays. Ensuite, on a cet élément-là, cette installation-là, qu'on appelle un réacteur piloté par accélérateur. Comment ça marche ? On a un accélérateur qui accélère un faisceau de particules. Ici, c'est des protons, c'est le noyau de l'hydrogène. Donc, il les accélère jusqu'à 800 MeV, c'est environ 80% de la vitesse de la lumière, à un courant de 5 milliampères. Donc, c'est un faisceau qui est très, très intense. Il faut savoir que voilà, la multiplication des deux donne la puissance de ce faisceau, c'est 4 mégawatts. 4 mégawatts, c'est très, très costaud. Ensuite, on envoie ce faisceau ici dans le réacteur. Le réacteur, ce n'est pas un réacteur critique comme on a actuellement, qui est piloté on va dire via des barres de contrôle ou d'autres de moyens liés à la réactivité. Ici, on pilote le réacteur uniquement via ce faisceau de protons qu'on envoie à l'intérieur. Donc comment ça marche ? Quand on envoie le faisceau de protons, ici, dans ce qu'on appelle une cible de spallation, on va générer d'autres types de particules qui s'appellent des neutrons de haute énergie. Et ces neutrons vont, eux, piloter la réaction autour dans les assemblages de combustible qui seront placés autour de la cible. Dès qu'on arrête l'accélérateur, donc dès qu'on arrête le faisceau de protons, en 2 millisecondes, la réaction s'arrête. Il n'y a pas de possibilité de divergence ou d'accident de criticité. Dès qu'on va l'arrêter, le système immédiatement se stoppe. On n'a pas d'éléments mécaniques qui bougent pour arrêter le système. Dès qu'on arrête le faisceau, c'est comme retirer la prise du système, le système s'arrête. Autour, ici, on a des assemblages de combustible, donc qui contiennent justement le thorium et les éléments transuraniques. TRU, c'est pour transuranique. Les neutrons qui viennent de cette cible ici, à haute énergie, ont assez d'énergie pour fissionner les transuraniques. Ce n'est pas réalisable dans des réacteurs critiques tels que l'on a actuellement en production, parce que les neutrons n'ont pas assez d'énergie. Ce sont des neutrons que l'on dit thermiques. Ici, les neutrons sont créés à très haute énergie parce qu'on a un faisceau de protons qui est très haute énergie, qui a 800 MeV. On a des neutrons qui vont jusqu'à 800 MeV en énergie. Et grâce à cette énergie, on peut fissionner ces éléments-là et obtenir à la place des produits de fission, qui sont beaucoup moins, dont la durée de vie est beaucoup plus réduite par rapport au transuranique. On a aussi du combustible thorium, enfin du thorium dans le combustible. Ce thorium-là n'est pas fissionnable. Par contre, on peut générer un élément fissionnable grâce à ce thorium. Ça, c'est l'uranium-233. Cet uranium-233 va pouvoir ensuite être extrait et réinjecté dans le cycle pour les autres réacteurs. Bien sûr, quand on va faire des réactions ici, on a beaucoup de réactions de fission, on va générer énormément de puissance, environ 600 MW thermiques. Il faut bien extraire cette puissance. Donc pour ça, on a besoin d'un caloporteur qui va transporter la chaleur produite dans le cœur, ici au niveau des assemblages, vers des échangeurs de chaleur. Et donc là, on a besoin d'un caloporteur, dans notre cas, un caloporteur plomb. Pourquoi on a besoin d'un métal liquide tel que le plomb ? C'est parce que le plomb est transparent aux neutrons et elle ne réduit pas leur vitesse. Il ne va pas modérer les neutrons, donc on va garder une énergie très haute pour les neutrons, ce qui va améliorer la fission et c'est le système qui montre le plus haut, la plus grande efficacité de transmutation des éléments transuraniques. Ensuite, on peut aussi monter à très haute température pour le plomb, parce qu'on arrive à des températures de l'ordre de 520 degrés Celsius. Donc ça augmente également l'échange thermique au niveau des échangeurs de chaleur, c'est des générateurs de vapeur, et on peut monter comme ça des efficacités thermiques de l'ordre de 43%. Et donc, grâce à cette réaction et à ce réacteur, on peut produire environ 600 MW thermiques. Donc, à la fois, avec ce système, on va brûler les déchets, c'est sa mission principale, mais on va aussi produire de l'énergie et produire du combustible pour d'autres réacteurs nucléaires. Donc c'est vraiment un système qui s'intègre dans un écosystème nucléaire, dans un cycle nucléaire, pour aider ce cycle à réduire ses déchets et à réduire son dépendance envers l'import d'uranium. Pourquoi aussi on insiste sur la production d'énergie et les 600 MW thermiques? On aurait pu faire une machine un peu plus petite, par exemple. En fait, ce type de système est économiquement viable uniquement si elle produit de l'énergie. Ce n'est pas sa mission principale, mais il faut toujours privilégier la production d'énergie pour le modèle économique. Dans d'autres systèmes qui ont été développés jusqu'à maintenant, des systèmes similaires à d'autres systèmes pilotés par accélérateur, l'accent sur le modèle économique n'a pas été vraiment très fort, et donc on arrive avec des systèmes qui sont économiquement non viables, non pas déployables à l'échelle industrielle. Maintenant, ce système n'est pas juste sorti du chapeau, il y a beaucoup de technologies qui ont été aussi développées jusqu'à maintenant, notamment au CERN. Donc le premier ADS qui a été démontré au CERN, où ils ont utilisé un faisceau de protons pour piloter un cœur sous critique, ici avec des assemblages de combustible. Il y a eu aussi la démonstration de la transmutation des déchets, ici dans un bloc de plomb. Donc pareil, un faisceau de protons a créé des neutrons de très haute énergie dans ce bloc de plomb, et les physiciens du CERN ont pu démontrer que la transmutation des déchets était viable. Ensuite, pour l'accélérateur. Donc là, on a fait le choix d'une technologie qui s'appelle cyclotron, donc c'est un accélérateur circulaire. On accélère les protons ici de manière en spirale, si vous voulez. C'est un peu comme si on attachait une balle après un élastique et vous faites tourner l'élastique, la balle s'étend et s'accélère de plus en plus jusqu'à ce qu'on extrait le faisceau de protons de l'accélérateur. Il se trouve que ce type d'accélérateur est développé depuis un certain nombre d'années, il est en fonctionnement depuis plus de 50 ans à l'Institut Paul Scherrer en Suisse, et produit déjà un faisceau de protons de plus de 1 MW. On a déjà la technologie en main pour pouvoir construire ce type d'accélérateur. Ensuite, pour la cible de spallation, il y a déjà eu aussi des cibles de spallation. Ici, c'est la cible, c'est le projet Megapi qui a démontré une cible de spallation de 1 MW. Donc pareil, c'était l'irradiation, aussi à l'Institut Paul Scherrer, d'une cible refroidie au plomb fondu, c'était plomb bismuth, et pour la production de neutrons. Pour les réacteurs, il y a déjà eu des réacteurs qui ont fonctionné, refroidis aussi au plomb bismuth. Je ne mentionne pas les réacteurs au sodium, je mentionne les réacteurs qui sont les plus proches, on va dire, de notre système. Mais ici, c'est un réacteur de sous-marin nucléaire russe qui fonctionnait avec du plomb bismuth. Donc il y a déjà des technologies qui ont été développées, qui fonctionnent. Maintenant, notre mission à Transmutech, c'est de mettre toutes ces technologies ensemble et de designer un système qui soit viable à l'échelle industrielle. C'est vraiment ça le challenge. C'est pas la physique fondamentale, c'est vraiment de mettre toutes ces technologies ensemble et s'assurer que tout fonctionne. Donc justement, ces technologies, il y a déjà le cyclotron de haute puissance. Donc je l'ai dit, on est basé sur, on utilise la technologie de l'Institut Paul Scherrer. Ici, vous avez une photo de l'accélérateur, les aimants sont en bleu, donc les aimants servent à courber le faisceau, et vous avez ici des cavités accélératrices qui permettent d'accélérer le faisceau à chaque fois que le faisceau de protons passe dedans. Donc vous imaginez, là on courbe le faisceau, là on l'accélère, on courbe le faisceau, on l'accélère, etc. et le faisceau décrit une spirale jusqu'à sortir de l'accélérateur où il est extrait. Initialement, ils avaient développé cette machine pour fonctionner à 0,1 mA. Maintenant, ils arrivent à plus que 2 mA, 2,4. Pourquoi on a choisi ce type de technologie? Bon, on a l'Institut Paul Scherrer à côté de chez nous, c'est en Suisse, donc ça c'est sûr, c'est un facteur qui joue. Mais ce n'est pas seulement le seul facteur. Bon, y a quand même une barrière de la langue, hein, parce que nous on est à Genève, c'est la partie francophone, ils sont dans la partie germanophone, donc il y a quand même une petite barrière de langue. Non, ce qui nous a convaincus à utiliser ce type de technologie, c'est l'efficacité énergétique. Vous avez globalement deux choix possibles pour les accélérateurs, soit des grands accélérateurs linéaires qui vont accélérer les protons jusqu'à pareil 800 MeV. Globalement, pour accélérer des protons jusqu'à 800 MeV, vous avez besoin d'un accélérateur qui fait 800 mètres de long. C'est l'accélérateur qui est à Los Alamos National Lab aux États-Unis. Pour l'accélérateur, ici, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 16 mètres de diamètre. Donc ça reste une machine conséquente, mais rien à voir par rapport à un accélérateur linéaire de 800 mètres. Et en termes d'efficacité énergétique, vu qu'on a beaucoup moins d'éléments dans cet accélérateur-là, on arrive à des efficacités énergétiques de l'ordre de 18-20%. Alors que pour un accélérateur linéaire, on est limité par la technologie, on a beaucoup plus d'éléments, donc on consomme beaucoup plus de puissance, et on a une efficacité énergétique de 9%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour produire un faisceau de 4 MW, dans notre cas, on a besoin d'alimenter l'accélérateur avec 20 MW de puissance électrique. Un accélérateur linéaire, ça pourrait monter avec les technologies actuelles, entre 50 et 100 mégawatts électriques. Je vous ai dit initialement que la production d'énergie était vraiment très importante pour le modèle économique. Ici, ça justifie complètement le choix de cet accélérateur. Si on a une efficacité énergétique très faible, très mauvaise pour l'accélérateur, la machine qu'on développera sera une machine de recherche et pas une machine viable économiquement. Maintenant, il y a des limitations avec ces machines, notamment à l'Institut Paul Scherrer. Ils ont tellement augmenté le courant qu'ils sont limités par les cavités accélératrices. Ils ne peuvent plus monter plus haut, ils ne peuvent plus accélérer plus. Ils ont tout déjà au maximum. Il faudrait qu'ils changent la machine, qu'ils mettent plus de cavités. Bon. Ça, c'est une limitation purement due au design, pas à la technologie. Pareil, l'autre facteur limitant, c'est les pertes de faisceau. À chaque fois qu'on perd le faisceau, on va activer une partie de la machine. Et donc, la machine devient inaccessible pour la maintenance pendant un certain temps parce qu'elle est radioactive, elle est activée. Donc ils ne veulent pas augmenter plus le faisceau parce que ça pourrait endommager justement la machine et créer et activer la machine. Mais encore une fois, c'est un problème lié au design parce qu'ils ont tellement optimisé la machine que voilà, ils sont limités maintenant par leur design mais pas par la technologie. Donc on a fait le choix de réutiliser cette technologie, monter un petit peu les paramètres, donc augmenter l'énergie du faisceau jusqu'à 800 MeV au lieu de 600 MeV, augmenter un peu le courant du faisceau, 5 mA au lieu de 2,4, pour atteindre ces 4 MW de faisceau. Et donc on travaille avec l'équipe du PSI pour ce design. Donc où on en est actuellement, on a adapté les éléments du PSI, on a finalisé les études de dynamique du faisceau. On est en train d'évaluer tous les aspects de radioprotection parce qu'il faut designer aussi toute une installation qui respecte certaines normes en termes de radioprotection et de protection du public. Et on a aussi développé tout un modèle de fiabilité. Une des critiques liées à ce genre d'accélérateur, c'est qu'il y a des problèmes de fiabilité. Si un élément lâche, on perd le faisceau. Dans notre cas, on a pu améliorer ça, justement, et garantir qu'on avait une fiabilité suffisante pour faire tourner la machine avec seulement un seul arrêt du faisceau par an inattendu. Ce qui est énorme jusqu'à maintenant. Au PSI, c'est plutôt une centaine de ce type de perte de faisceau. On a pu gagner deux ordres de grandeur. Et on a pu faire les tests de justement cette amélioration au PSI. Maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite? On va construire la première partie de l'accélérateur qui s'appelle la source d'ion. C'est la façon dont on génère les protons à partir de l'hydrogène. On va construire cette source d'ion à Los Alamos National Lab, c'est aux États-Unis. Donc le projet a été financé en partie par le DOE, c'est le Department of Energy. Et on va pouvoir tester la fiabilité donc de cette source d'ion. Vous imaginez que c'est un composant critique. Si la source d'ion initiale qui crée le faisceau de protons n'est pas stable, le faisceau ne sera pas stable in fine. Ici, juste pour vous donner une idée, ça, c'est la simulation que l'on peut faire pour les faisceaux de protons quand on simule l'accélérateur. Ici, vous voyez un ensemble de protons, donc on a une sorte de bunch, c'est un nuage de protons que l'on regarde, on suit pendant qu'il est accéléré dans le cyclotron. Donc on reste au-dessus et on regarde la forme pour s'assurer que le faisceau de protons reste bien compact et ne diverge pas. Et on peut comme ça vérifier aussi la taille du faisceau, ce qui est important pour l'extraction du faisceau de protons. Ici, l'effet qu'on voulait voir, vous aurez du mal à le voir, je pense, sur cette image, mais c'est une sorte de vortex qui concentre aussi les protons à l'intérieur. Donc on part d'un quelque chose de très diffus et ça concentre les protons vers l'intérieur. Et ça a pu être aussi validé avec l'installation au PSI. On a pu valider nos codes de calcul grâce aux installations déjà disponibles à l'Institut Paul Scherrer. Donc je vous ai parlé de l'accélérateur. On peut créer un faisceau de protons, on a la technologie en main, on a pu vérifier certaines nouvelles idées dans le design. Maintenant, il faut envoyer ce faisceau de protons sur une cible de haute puissance. On appelle aussi cible de spallation. Il y a plusieurs technologies qui sont disponibles. On a choisi une technologie qui est refroidie par un métal liquide. Pourquoi ? Encore une fois, c'est une exigence liée au design. On a besoin d'une cible compacte qui peut être insérée dans un réacteur. Si on prend l'exemple d'un autre projet, la source de spallation européenne, qui est une source bientôt disponible en Suède. Elle fait 5 mégawatts, on n'est pas très loin, sauf que le diamètre du système fait 2,5 mètres. Donc c'est pratiquement impossible d'avoir ça dans un réacteur nucléaire. Si maintenant on prend l'exemple de Megapi, qui est la cible de 1 mégawatt qui a été irradiée au PSI sur leur accélérateur, on a un diamètre de 40 cm. Donc on voit l'effet de la compacité liée au refroidissement. Donc on a besoin d'avoir ce type de technologie en main. Donc avec cette compacité, due au fait qu'on a un meilleur transfert de chaleur, on peut simplifier la conception de l'ensemble du système. Ça apporte aussi des désavantages, notamment la corrosion liée aux métaux liquides. Donc le plomb est très corrosif envers les aciers et donc il faut aussi gérer cette partie-là car on peut avoir des fragilisations liées aux métaux liquides. Et donc ça c'est aussi un de nos travaux qui est de tester les matériaux par rapport à la corrosion du plomb. Donc ici, vous avez le design de la cible une fois insérée dans le réacteur. Donc vous avez le faisceau de protons qui arrive par le haut, qui traverse une première fenêtre. Cette fenêtre permet de séparer la partie accélérateur de la partie réacteur qui est nucléaire. Il faut la refroidir. Donc on a ici un canal refroidi à l'eau. Ensuite, en dessous, on a ici cette petite chambre ici qui permet de connecter différentes instrumentations. On a besoin de vide aussi. On n'a pas parlé, mais le faisceau de protons ne peut pas traverser l'air sans être dégradé. On a besoin d'avoir un bon niveau de vide. Donc on a aussi besoin d'avoir des systèmes qui nous permettent de pomper des gaz résiduels dans ce type de système. Et enfin, en bas, ici, dans le réacteur, au milieu du cœur, on a la dernière fenêtre, ici, où le faisceau de protons va traverser et interagir avec le plomb qui se trouve de l'autre côté. Donc, on a du plomb parce qu'on est dans le réacteur, donc ici, tout baigne dans le plomb. Et les faisceaux de protons, le proton va créer des neutrons une fois qu'il voit le plomb ici de ce côté-là. Le défi dans le design de ce système, c'est vraiment cette fenêtre ici, cet hémisphère-là, parce qu'elle va voir tout le faisceau de protons passer. Ça va créer énormément de dommages, parce que les protons ne traversent pas sans interagir avec la matière. Et donc on va avoir beaucoup de dommages créés, et il faut justement bien designer cet élément-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de casse lors du fonctionnement. Donc pour ça, on est en train de faire des irradiations avec certains laboratoires en Croatie pour vérifier la stabilité de ce matériau sous irradiation. Donc bien sûr, on a dû faire tout un ensemble de calculs thermohydrauliques, structurels, neutroniques. Et tout ça interagit l'un avec l'autre. Donc il y a beaucoup d'itérations. Et maintenant, on est en train de travailler à l'intégration de cette cible proprement dans le réacteur, notamment lors des différents scénarios de fonctionnement, lors du rechargement du réacteur, lors des différents arrêts pour maintenance, et aussi lors des scénarios incidentels, par exemple, si on a la fenêtre qui se casse, qu'est-ce qu'il advient? Donc ça, on est en train d'évaluer justement tous ces scénarios. Et comme je l'ai déjà dit, donc là on est aussi en train de tester la fenêtre de la cible pour vérifier qu'elle va soutenir ces conditions d'irradiation. Donc pour ça, on a beaucoup travaillé aussi avec le CERN, je dois le mentionner, pour sélectionner les matériaux et vérifier que la fenêtre va tenir. Un des matériaux qu'on utilise, d'ailleurs, a été développé initialement par le CERN. Ensuite, donc on a envoyé le faisceau de protons dans la cible. Le faisceau de protons va pouvoir interagir avec le plomb qui se trouve dans le réacteur et autour. Donc on a ce réacteur qui est refroidi au plomb. Pourquoi le plomb? Il y a beaucoup de choses qui ont été développées avant, comme les réacteurs au sodium. Mais le plomb présente beaucoup d'avantages. En tant que métal liquide, on n'a pas de pression atmosphérique. Il est aussi transparent aux neutrons. Le plomb a une forte capacité thermique. Donc on a une très bonne inertie aussi en thermique. C'est-à-dire que si on a des arrêts de faisceau, on va pouvoir continuer à produire de l'énergie et la température du plomb va rester quasiment constante. On va avoir une très bonne inertie thermique. Idem en cas d'accident, si on a un arrêt complet de l'installation. On a un point d'ébullition du plomb qui est très élevé, donc on ne va jamais atteindre ce point-là. On va fondre les structures avant d'atteindre ce point-là. Donc on a, en termes de simulation, une seule phase à considérer, qui est la phase liquide. Et donc ça, c'était un gros avantage de l'utilisation du plomb, que c'est un problème important dans les réacteurs à eau, de considérer différentes phases et de pouvoir simuler ces éléments-là. Chimiquement, il est inerte. Donc ça, par rapport à l'interaction avec de l'eau ou de l'air, il n'y a globalement aucune réaction chimique. Et en termes de taux de transmutation pour les transuraniques, parce que c'est bien là aussi la mission du système, c'est le caloporteur qui montre les meilleures performances parce que c'est celui qui modère le moins les neutrons. Donc on a la meilleure énergie, la plus haute énergie pour les neutrons pour transmuter les transuraniques. Il y a différents projets qui sont soit à l'étude, soit en construction, ou qui ont déjà été construits. J'ai parlé des réacteurs sous-marins de classe Alpha. Il y a un projet européen qui s'appelle Alfred, qui développe aussi un réacteur critique à plomb fondu, et le réacteur Brest, qui est en construction en Russie. En termes de désavantages, c'est un métal liquide, donc il est opaque. Donc tout ce qui est inspection visuelle, il faut trouver d'autres solutions. Le point de solidification pour le plomb, c'est 327 degrés Celsius. Donc il faut s'assurer de toujours rester au-dessus de ce point de solidification. Et ça, c'est un point important dans le design, pour s'assurer qu'on peut toujours faire fonctionner le système. Et enfin, la compatibilité des matériaux. Donc je parlais de la corrosion par le plomb. Jusqu'à maintenant, dans le nucléaire, toute la compatibilité des matériaux a été déterminée par les réacteurs refroidis au sodium. Donc il y a beaucoup de matériaux qui sont qualifiés pour les réacteurs au sodium, mais très peu, voire aucun, qualifiés pour les réacteurs au plomb. Donc il y a tout un travail aussi de développement de ces matériaux, ou en tout cas de qualification de ces matériaux, parce que ces matériaux existent, mais il faut les qualifier pour s'assurer de leur viabilité dans le plomb. Donc voilà à quoi ressemble le réacteur. Donc, comme j'ai dit, il peut produire 600 MW thermiques. On a un coefficient, donc Kf, qui est inférieur à 0,98, ce qui veut dire qu'on est toujours sous critique quand on est en fonctionnement. On ne dépasse jamais cette valeur-là. Ici, vous avez donc la cuve du réacteur. Le cœur se trouve ici. On a la cible qu'on retrouve insérée au milieu. Vous avez les assemblages de combustible qui sont ici. Donc, ces assemblages contiennent, je l'ai dit, du thorium, et c'est un combustible métallique pour éviter la modération des neutrons et assurer aussi une très bonne conductivité thermique. En termes d'extraction de chaleur, donc on a des générateurs de vapeur qui permettent d'extraire 600 MW thermiques avec des systèmes redondants pour l'évacuation passive de la chaleur en cas d'arrêt du système. On se repose aussi sur la circulation naturelle dans ces cas-là. Où on en est ? Donc on a le concept qui est là. On a développé la plupart des composants, on les a intégrés ensemble dans la cuve. On est en train de finaliser toutes les études de neutronique et de aussi radioprotection, et développer tous les scénarios incidentels et accidentels qui pourraient se produire avec ce type de système, pour montrer que le système est sûr pour le fonctionnement. Maintenant, ce que l'on est en train de faire, on est en train de prévoir des expériences pour la corrosion des matériaux et la caractérisation justement des aciers pour l'utilisation en réacteur. Ici, pour vous donner une idée, vous avez la distribution en énergie des neutrons qui sont créés dans le système. Donc, on voit qu'on va jusqu'à environ 800 MeV. Ici, c'est l'énergie des protons. Et on a un pic autour du MeV pour la production des neutrons avec cette distribution. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour du réacteur piloté par accélérateur. Donc on a l'accélérateur, la cible, le réacteur. On a le combustible, mais maintenant, une fois qu'il est irradié, ou pour produire ce combustible, il faut bien passer par une étape de retraitement. Ce retraitement-là se fait via la technologie pyroprocessing. Pyroprocessing, c'est une technologie qui a été développée initialement par Argonne National Lab. Donc on travaille avec eux pour développer cette technologie à l'échelle industrielle. Globalement, comment ça marche ? On a ici une cuve avec un sel fondu. On va pouvoir dissoudre le combustible dans ce sel. Et en appliquant un potentiel entre deux électrodes, on va pouvoir attirer électrochimiquement certains éléments sur l'électrode. C'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est des essais avec de l'uranium. On a ces, ici, ces dendrites qui sont créées lorsqu'on attire l'uranium sur une des électrodes. C'est un procédé qui est déjà en utilisation dans l'industrie, qui s'appelle l'électroraffinage, pour raffiner les métaux, typiquement. Il se trouve que ben, l'uranium, ça reste un métal, donc ça marche très bien avec l'uranium. L'avantage de ce procédé-là, c'est qu'on ne peut pas séparer sélectivement le plutonium de l'américium ou du curium. On peut très bien séparer l'uranium des transuraniques, mais on ne peut pas séparer de manière sélective le plutonium. Donc, en termes de prolifération, ça permet de ne pas justement pouvoir extraire le plutonium, et donc ça limite les risques de prolifération. Aussi, on fonctionne avec ici des cuves. Donc on a un système de batch. Donc on limite aussi les problèmes de criticité. On n'a pas de problème de criticité. Si la quantité de matière est limitée dans la cuve, on limite également le risque de criticité. En termes d'effluents radioactifs, il faut savoir que le sel peut être utilisé pendant des dizaines d'années. À Argonne, ils ont fait ce recyclage, donc c'était à Idaho, donc c'est anciennement Argonne West, qui est devenu maintenant Idaho National Lab. Ils ont recyclé le combustible usé d'un de leurs réacteurs rapides au sodium, réacteur EBR2, pendant 30 ans avec le même sel. Donc on peut, de manière très efficace, recycler le combustible sans avoir d'effluent radioactif. Ensuite, on produit un combustible directement métallique. Donc pour nous, ayant choisi la forme métallique pour le combustible, ça a aussi un avantage puisqu'on élimine une étape d'oxydation ou de réduction dans ce cas-là. Et le rendement d'extraction pour ce type de système est très très élevé. On peut purifier les éléments et extraire environ 99,9% des transuraniques par rapport au combustible usé. Donc bien sûr, ça peut encore s'ajuster, on peut même faire mieux que ça. On a fixé la limite pour nous à 99,9, parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'effet vraiment, il n'y a plus d'impact sur le stockage géologique profond et la radiotoxicité des déchets à long terme. Maintenant, le désavantage de cette technologie, c'est que la maturité industrielle, en comparaison de Purex par exemple, est beaucoup plus faible. Donc il y a beaucoup plus de développement à faire. Mais voilà, c'est le jeu. À quoi ressemble ce process ? Donc, on va avoir déjà une première étape où on va couper l'assemblage. On a besoin de le couper en petits morceaux, on va dire. Ensuite, on a l'étape de voloxydation. C'est une oxydation très importante des éléments pour s'assurer de détacher tout le combustible du cladding. Parce que maintenant, on a des burn-up de plus en plus hauts dans les combustibles nucléaires et une interaction de plus en plus forte entre le combustible et la gaine. Et donc, on a besoin d'avoir cette étape de voloxydation pour s'assurer de vraiment extraire tout le combustible de la gaine et pas avoir d'éléments radioactifs dans les gaines. Ensuite, on a l'étape d'électro-réduction pour avoir un élément métallique et l'électro-raffinage, électro-winning, pour extraire soit l'uranium et le thorium d'un côté, soit les transuraniques avec un petit peu d'uranium qui reste dans le flux. Et tout ce qui reste dans le bain, ensuite, peut être filtré pour être vitrifié. Donc il ne reste que des produits de fission. Donc au final, avec ce type de système, avec le travail que l'on a fait avec Argonne, on a un design pour environ une centaine de tonnes par an de retraitement de combustible usé, ce qui correspond à peu près à 5 machines. Donc c'est pour ça qu'on design aussi un site pour avoir environ 5 réacteurs pilotés par accélérateur avec une usine de retraitement de ce type-là. Voilà. Donc, j'ai fait le tour un peu de toute la technologie. J'espère avoir été assez clair. Il y a beaucoup de détails que j'ai passés assez vite. Mais globalement, ce que l'on essaie de faire, donc, on n'est pas seul. On travaille avec Argonne, avec le Salamos, PSI. Il y a beaucoup d'instituts qui nous aident. Et ce que l'on essaie de faire, donc, c'est transmuter les déchets en produisant de l'énergie et en produisant du combustible pour les autres réacteurs. Voilà. Merci.
Bien, eh bien, merci beaucoup. Donc, si quelqu'un veut se lancer à poser des questions, même oui, il y a déjà des questions. Voilà. Donc, on apporte le micro. On vérifie que ça fonctionne là.
Oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une pollution de l'air et de l'eau, par exemple ? Parce que vous avez parlé des matériaux, des métaux, mais pas de l'air ni de l'eau.
Vous voulez dire dans le retraitement du combustible ?
Oui, dans l'ensemble de la machine. Et aussi le retraitement, parce qu'il y a certainement aussi des pertes dans l'air.
Justement, en fait, si je remonte ça, dans l'étape de cisaillement des combustibles, c'est là où on va libérer typiquement les gaz. Et donc, ici, on a aussi des filtres qui permettent de récupérer un certain nombre d'éléments. Il y a des éléments qui sont très utiles, qui actuellement sont plutôt relâchés, comme le krypton, que l'on veut capturer pour en faire des sources utiles pour l'industrie. Donc on essaie, dans le concept que l'on a actuellement, on essaie justement de filtrer au maximum tous ces éléments-là. On a une politique de zéro rejet, alors ce ne sera jamais complètement zéro, mais en tout cas de limiter au maximum tous les rejets. Donc c'est une très bonne question, mais justement, c'est ce qu'on essaie de limiter. Donc il y en aura toujours un petit peu, dans l'air par exemple, mais on essaie de le limiter au maximum. En tout cas, il y en aura moins, puisqu'on essaie d'utiliser ces éléments-là pour l'industrie.
Pardon, bonjour. Je croyais que la Suisse était un peu comme l'Allemagne, elle ne voulait pas de centrales nucléaires. Et les votations empêchaient toujours de faire passer des lois pour le nucléaire. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution là-dessus ?
Alors non, vous avez raison. La Suisse même empêche le retraitement de combustible. Par contre, au niveau de la R&D, ce qu'elle considère en tant que R&D, donc recherche et développement, il n'y a pas d'interdiction en soi. De développer ce genre de système. C'est pour ça qu'on travaille typiquement à l'Institut Paul Scherrer, qui est aussi le centre nucléaire pour la Suisse, et on travaille dans leur hot cell pour fabriquer nos combustibles, etc. Et ça, on est autorisé à le faire en tant que, on va dire, recherche, projet de recherche. Donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Maintenant, pour la construction du système final, on ne prévoit pas actuellement de le construire en Suisse. Il n'y a pas de possibilité, à moins d'avoir un changement de loi. Il y a des votations qui sont prévues pour changer la loi. Le vent est en train de changer. Maintenant, c'est pas encore acté, donc on ne veut pas trop s'avancer là-dessus. Voilà. Oui. Ouais. Alors, on pourrait exploiter la chaleur. Maintenant, on ne l'a pas, on va dire, conçu dans ce but-là. Il y a déjà beaucoup de choses innovantes et beaucoup d'applications. Je pense que ce n'est pas le système le plus idéal, honnêtement, pour produire de la chaleur. Il y a d'autres systèmes qui sont en développement actuellement, dont c'est le marché, et vraiment ce marché-là n'est peut-être pas le plus idéal pour notre système. Notre système s'adresse vraiment à aider le cycle du combustible pour réduire les émissions de radioactivité dans l'environnement ou les déchets nucléaires sur le long terme.
Des entreprises ou est-ce que c'est un module qui pourra passer par le réseau RTE par exemple?
Non, l'idée est plus d'avoir une sorte de centre nucléaire avec plusieurs réacteurs, une usine de retraitement. Oui, voilà, par exemple. Donc, l'idée c'est plus d'avoir ce genre de petit centre nucléaire qui permet de, par exemple, pas loin de réacteurs existants, de pouvoir brûler les déchets et leur fournir du combustible. C'est plutôt ça le concept.
Oui, si j'ai bien compris, donc il y a trois parties. Il y a le cyclotron,
oui.
Il y a le réacteur,
oui.
Et il y a la transformation, la transmutation des déchets.
Ouais.
Quelle est la part d'énergie nécessaire pour le cyclotron et pour la transformation des déchets par rapport à la production de la centrale? Parce que ça,
ouais.
C'est important.
Oui, effectivement.
Si c'est 10% ou 20%. Ouais.
Alors, ce que je vous ai donné comme chiffre, les 220 mégawatts électriques de production, c'est la production nette. On produit en fait 252 mégawatts électriques bruts. Et on utilise 32 mégawatts électriques pour alimenter les systèmes. Voilà. Donc ce qui consomme le plus, c'est l'accélérateur et aussi la ventilation. En fait, c'est un gros poste.
Comment vous acheminez le faisceau accéléré par le cyclotron jusqu'au centre du réacteur?
Alors,
quels matériaux vous canalisez?
Alors déjà, il y a toute une ligne de faisceaux. Donc pour ça, en fait, on a besoin d'aimants. Donc c'est des électro-aimants qui permettent de guider le faisceau. Plus le faisceau est énergétique, plus les aimants sont gros. C'est des pièces qui font environ 40 tonnes. Donc c'est vraiment des éléments assez importants. Une fois que le faisceau arrive au niveau de la cible, donc on peut avec ces aimants guider le faisceau jusqu'à arriver au niveau de la cible. Après, au niveau de la cible, le faisceau est dans le vide, donc il va tout droit. Il n'y a plus besoin de guider le faisceau. Donc il va directement impacter la cible au fond jusqu'à arriver au niveau du plan. C'est du fer. Globalement, c'est des aimants, donc c'est des électro-aimants, c'est principalement du fer. C'est des technologies qui sont très connues, on va dire, dans les instituts qui ont des accélérateurs.
La Suisse d'aujourd'hui, elle fonctionne avec des lacs, des barrages en énergie, et qu'est-ce qu'elle a d'autre en énergie?
Du nucléaire.
Ah bon, quand même?
Eh oui, c'est 40% de nucléaire.
Vous n'avez pas des verts qui sont assez prononcés là-bas?
Alors, si, mais ils ont fait quelque chose de... Enfin, le gouvernement a voté quelque chose d'assez intelligent, c'est pas d'arrêter les centrales du jour au lendemain, mais c'est de ne pas prolonger ou pas d'autoriser de nouvelles constructions. Donc ils ont des centrales, certaines qui ont plus de 60 ans. Et elles sont bien maintenues. Et ils ont pu prolonger la durée de vie de certaines centrales. Non, c'est des anciennes technologies. Donc il y a deux Westinghouse, un KVU. Donc c'est plutôt des réacteurs à eau pressurisée. Ils ont aussi un réacteur à eau bouillante. Mais... Oui, il y en a une qui a été arrêtée qui s'appelle Mühleberg récemment. En fait, pour tout vous dire, ils l'ont arrêtée et après il y a eu les augmentations de prix de l'électricité et ils se sont un peu mordus les doigts.
Bonjour, est-ce que vous avez une idée du prix de l'électricité qui sortirait de ces machines aux EPR actuels ou...
Oui, le prix de l'électricité qui sortirait environ de ça, on a un élément qu'on appelle le LCOE. Et on est entre 80 et 100 euros du mégawatt-heure. Comment ? Il semble que les EPR sont un peu, peut-être un peu plus bas, à 70. Ok. Mais c'est, on est très similaire. L'avantage ici, c'est qu'on a un cycle secondaire, enfin un circuit secondaire qui est très efficace. Donc on récupère une partie de l'énergie, enfin de l'inefficacité due à l'accélérateur via ce cycle secondaire et cette haute température.
Construire un site, c'est quel investissement ?
Alors c'est pour une machine, on a estimé ça pour la première machine, d'accord ? On a estimé ça à 2 milliards pour une machine. Donc c'est 220 mégawatts. Les échéances, là on est encore dans la phase de design. Globalement, on prévoit. Si on n'a pas de gros problèmes au niveau politique ou légal ou réglementaire, d'avoir un premier système en 2035. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut commencer assez rapidement à construire le système via l'accélérateur, qui n'est pas un système nucléaire. Et ça nous aide déjà énormément. Alors, non. Il y a deux possibilités, pour le moment en tout cas, et on est en discussion avec d'autres, mais celle qui se dégage, ce serait plutôt soit aux États-Unis. Et la deuxième possibilité, mais là, il faudra voir au niveau légal ce qu'il advient, au-delà de l'accélérateur, c'est l'Allemagne. Ouais. Oui, parce que l'Allemagne, justement, réalise qu'ils ont des déchets, et en fait, ils n'ont pas de solution de gestion des déchets sur le long terme, et ils prévoient de sélectionner un site en 2070. Le problème, c'est ils ont des fonds de côté, mais à un moment donné ça va aussi s'épuiser, donc il faut qu'ils fassent quelque chose assez rapidement.
Oui, j'ai pas tout compris sur la valorisation du projet. Oui. Je pense que le premier projet que vous mettriez en place, ça sera 2035, oui. Avec un coût de 2 milliards d'euros.
Oui.
Vous valoriseriez l'énergie qui serait produite incidemment à 70 à 100 euros
le mégawatt-heure.
Mais l'objectif, c'est aussi de transmuter les déchets, de les réduire. Et est-ce que vous avez mis la valorisation de cette prestation ?
Oui, alors justement, c'était l'idée initiale, c'était de développer un système qui transmute les déchets. Donc vraiment au début, on a commencé à designer le système en se concentrant uniquement sur la transmutation des déchets. Puis on a travaillé un peu sur le modèle économique de l'installation. On s'est rendu compte que le coût associé aux déchets, l'argent que l'on met ou que les opérateurs mettent actuellement pour les déchets, est très très faible en comparaison du coût de l'énergie que l'on pourrait, du revenu venant de la vente d'énergie que l'on aurait avec le système. C'est environ 10%, si vous voulez, si on pouvait récupérer de l'argent via la transmutation des déchets, c'est 10% des revenus venant de la vente d'énergie. Et en fait, si on considère uniquement la transmutation des déchets, le système n'est pas viable. Et c'était une grosse critique aussi sur les ADS, que beaucoup se sont concentrés sur la transmutation des déchets uniquement, mais le système n'est pas viable si on se concentre uniquement là-dessus. Donc notre système est quand même moins profitable qu'un réacteur de 1 gigawatt à eau pressurisée. C'est clair pour la production d'énergie. Et c'est pas le but d'être aussi profitable ou d'être en compétition avec ces réacteurs-là. Le but, c'est d'apporter un autre service, mais toujours en gardant un niveau de profitabilité pour la machine.
Moi, j'ai une question sur la profitabilité. Est-ce oui. que, parce que vous produisez du thorium-233,
oui.
on veut de l'utiliser. Or, il n'y a aucun réacteur aux États-Unis et en Europe qui utilise ça. Il y a que l'Inde et probablement en Chine. Alors, est-ce que justement cette profitabilité dépend de la revente de cet uranium, enfin de ce thorium-233
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Déjà, l'uranium-233, on peut décider de le réinsérer dans la machine, dans notre machine. S'il n'y a pas d'autres réacteurs qui existent là où on implante le système, on peut le réutiliser. Ça pénalise un peu la transmutation des déchets parce qu'on brûle de l'uranium-233 et pas des transuraniques, mais c'est possible. L'uranium-233, effectivement, n'est pas actuellement utilisé dans aucun réacteur parce qu'il n'existe pas dans la nature. On a besoin de le créer. L'Inde a ce projet d'utiliser le cycle du thorium, donc thorium-uranium, pour ses réacteurs. Donc eux seraient très intéressés, je pense, par avoir ce type de combustible. Ce que j'ai montré ici, c'est pas un combustible thorium pour les réacteurs à eau pressurisée. C'est un combustible uranium. Donc c'est uranium-238 mélangé à uranium-233. Pourquoi ? En termes d'efficacité, il y a peu d'intérêt d'utiliser du thorium dans des réacteurs à eau pressurisée. Il y a un intérêt dans les réacteurs à eau lourde, parce qu'on va avoir une génération d'uranium-233 importante, et donc un cycle qui est beaucoup plus efficace avec des réacteurs à eau pressurisée, à eau lourde. Pour les réacteurs à eau pressurisée, c'est uniquement, comme ça a été fait pour le MOX, réutiliser de la matière qui existe et la recycler en réacteur à eau pressurisée. En termes de profil de sûreté, on a à peu près la même chose que pour un réacteur qui est moxé. On pourrait avoir un tiers du réacteur avec ce type de combustible, l'UOX, et les deux tiers en uranium classique. J'espère que j'ai répondu à la question.
Après, j'ai une autre question. Vous avez des briques technologiques qui ont été financées par le département d'énergie,
oui.
au USA. Or, avec les retournements d'alliance actuels, est-ce que ça risque pas d'être impactant pour la diffusion de ce produit en cas de représailles technologiques, de non-divulgation de technologies américaines?
J'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous prédire le futur. Il se trouve que dans le nucléaire, si on veut un projet international, aller contre les Américains ne marchera pas, purement et simplement. Donc il vaut mieux avoir un projet avec les États-Unis et le voir comme un projet multinational qu'avoir un projet sans les États-Unis dedans. Ah, en Suisse ? Oui, en Suisse, oui. Ouais. Mais globalement, la Suisse fait un rôle de transfert d'électricité, c'est-à-dire qu'elle achète de l'électricité à très bas coût en Allemagne quand il y en a beaucoup trop. Elle se fait payer pour l'avoir. Elle la revend à la Suisse, à l'Italie, pardon. Voilà, c'est plutôt ça. Il y a aussi une loi qui a été votée en Suisse, pour tout vous dire, sur l'électricité et l'énergie. On doit à la fois réduire nos émissions et en même temps réduire notre consommation électrique. On peut penser que c'est un peu paradoxal, mais c'est la loi. Oui.
Vitrifiés, vous allez les stocker sur votre site même ?
Non, les...
Où vous avez trouvé des sites ?
La solution qu'on propose ne résout pas le problème du stockage ultime. Il faudra toujours un stockage géologique. L'avantage, c'est que ça aide, ça réduit les exigences, le niveau d'exigence pour le stockage géologique, parce que la durée de vie est fortement réduite, et donc on peut garantir, avec des analyses déterministes et non probabilistes, la sûreté de ce stockage géologique profond. Donc c'est uniquement en ça que ça va aider pour le stockage profond. Je ne sais pas si j'ai répondu. Après le stockage, il y a toujours un stockage, un entreposage intermédiaire avant d'arriver vers un stockage géologique. C'est pour ça qu'on travaille justement sur des formes qui sont aussi qualifiées pour rentrer dans ces stockages géologiques profonds. Il faut à un moment donné avoir ces formes qualifiées pour les stocker. Donc, dans chaque pays qui veut continuer le nucléaire, il faudra un stockage géologique à un moment donné. Après, certains pays peuvent faire le choix d'un entreposage en surface, mais voilà, ça dépend de chaque pays.
Oui, je voudrais revenir sur un problème, celui de la sûreté.
Oui.
Dans les réacteurs que nous utilisons en France et dans le monde, mais à eau pressurisée, le problème est qu'en cas d'arrêt du réacteur, ce qui se passe si on fait la chute de barre,
oui,
par exemple, le réacteur s'arrête,
oui,
mais il produit encore beaucoup de chaleur. Oui. Si mes souvenirs sont exacts, dans les secondes qui suivent, c'est encore 10% de la chaleur qu'il faut évacuer. Le problème s'est trouvé... de manière spectaculairement popularisée suite à Fukushima. À Fukushima, les réacteurs, toutes les procédures ont bien fonctionné, sauf le refroidissement, parce qu'ils ont été coupés de leur source de refroidissement. Je n'ai pas tout à fait compris dans votre projet de réacteur. Comment, là, ça se passe quand on coupe l'accélérateur? On sait qu'il ne divergera pas de manière surcritique, puisqu'on ne dépasse pas de 0,98. Mais si on l'arrête, il y a bien encore de la puissance à évacuer.
Exact. Ouais. On a les mêmes principes.
Voilà.
Dans notre cas, on a deux systèmes redondants qui permettent d'évacuer la chaleur résiduelle. Un qui est connecté aux échangeurs, aux générateurs de vapeur, et on a un autre système additionnel qui est aussi utilisé en cas d'urgence si jamais le premier système venait à défaillir. On a aussi une redondance de ces, en plus de la diversité, on a aussi une redondance de ces systèmes là. Le fonctionnement est le suivant. En fait, on a des vannes qui ferment la boucle. Donc des vannes de sûreté qui vont se fermer. On aura une boucle fermée au niveau des échangeurs de chaleur qui sont connectés à une piscine contenant de l'eau, une piscine froide, un réservoir d'eau avec un condensateur, condensateur immersé, immergé dans le réservoir. Et via ce processus-là, on va pouvoir, dans les générateurs de vapeur, il va se créer de la vapeur, l'eau va bouillir, cette eau va venir dans le condensateur, dans le réservoir d'eau, qui est froid, il va y avoir un échange de chaleur, et l'eau va revenir sous forme liquide dans l'échangeur de chaleur, dans le réacteur. Donc on a un système passif à ce niveau-là, au niveau des générateurs de vapeur. Dans la partie primaire, on se repose uniquement sur la circulation naturelle, parce qu'on a un réacteur type piscine, où on a tout dans le même dans la même cuve et on a cette convection naturelle du plomb. Donc on a à la fois la convection naturelle du plomb et le refroidissement passif au niveau des générateurs de vapeur. Donc on a ces deux systèmes-là, ça permet de refroidir de manière stable le réacteur. L'autre point qui est important, c'est qu'il ne faut pas refroidir trop le plomb. Parce que si on passe voilà, si on passe en dessous des 327 degrés Celsius, on va commencer à solidifier le plomb. Donc pour ça, le condensateur qui est dans le réservoir d'eau, en fait, contient aussi des gaz et qui permet de gérer de manière, c'est juste un paramètre lié au design, de gérer l'échange de chaleur en fonction de la pression de la vapeur dans ce circuit. Et l'échange de chaleur est réduit en fonction de la température et de la pression de cette vapeur d'eau. Et donc ça permet de limiter la température du plomb à une certaine valeur. Une fois qu'il atteint une valeur de l'ordre de 350 degrés, l'échange de chaleur est quasiment interrompu. Et donc, on reste voilà, à ces niveaux-là. RBMK oui, on en a encore en Russie. Oui, dans notre cas aussi, c'est vrai que par rapport à Fukushima, il n'y a pas d'hydrolyse de l'eau. Donc, on n'a pas de production d'hydrogène. On n'a pas de... Donc, en fait, le plomb a une inertie thermique aussi telle que... Voilà, c'est très très sûr en termes de thermohydraulique. Vraiment, le seul problème que l'on a, c'est la compatibilité avec les matériaux. Et ça, c'est le travail qu'on est en train de mettre en place, mais c'est pas un...
Je voudrais revenir sur la...
Attendez, je crois qu'il y a...
Je voudrais revenir une minute sur la rentabilité du projet.
Oui.
Avec ce que vous nous avez expliqué. Vous dites que la vente de l'énergie produite oui. serait légèrement moins compétitive que le système nucléaire, les installations nucléaires actuelles. Et en même temps que la production, la réduction des déchets, c'est une prestation... qui ne serait pas très rentabilisé actuellement. Mmh. Alors, en revanche, vous avez dit que l'objectif de ce projet, d'ailleurs, ça se trouve dans le nom de votre société, c'était de réduire les déchets. Mmh. Et vous avez expliqué aussi qu'il y avait une augmentation des déchets. Est-ce que c'est par là que votre projet devient vraiment rentable ?
Au global, il n'y a pas d'augmentation de déchets. Même si on transmute les déchets, il n'y a pas d'augmentation de déchets. On arrive à une réduction... global du système. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Après, ça c'est une politique intérieure de chaque pays, de comment on voit sa politique énergétique. Nous, on propose un système qui permet de réduire globalement la quantité de déchets. Soit, comme l'Allemagne, on décide d'arrêter ses centrales, on a une quantité fixe de déchets et on peut les réduire. Soit, comme d'autres pays, on décide de relancer le nucléaire et de... Alors oui, on va produire plus de déchets, mais on peut réduire leur durée de vie et réduire le volume global de ces déchets-là. Ça, nous, on ne peut pas décider à la place des politiques. Donc, on ne se met pas à leur place.
Je vous propose qu'on en reste là. On va remercier à nouveau nos intervenants. Henri, viens, lève-toi. Je voudrais profiter de l'occasion quand même pour vous présenter. Viens, Henri. Une grande personnalité, Henri Revol, qui a été sénateur de la Côte d'Or et qui était le rapporteur des deux lois sur le nucléaire de 1995 et de 2006, et celle de 2006 qui a institué l'ASN. Voilà. Et donc, c'est un sénateur ingénieur. Ça existe. Voilà. Merci, Henri. Voilà. Et donc, toujours fidèle et on est toujours content de le voir. Donc, il a eu un rôle capital dans les cercles politiques pour faire passer les messages. On parle toujours, et c'est abstrait, je vous le montre, il existe. Hein, voilà, voilà, et il est encore vivant, il a un âge canonique, mais il est toujours sur la brèche et il est toujours avec nous. Merci Henri. Voilà.
Et pour conclure, ça marche plus, si ça marche. Pour conclure, donc au nom de la SFEN, hein, Société française de l'énergie nucléaire, qui était co-organisatrice de cette conférence, ben, on remercie Monsieur Maire pour son exposé vraiment complet et fort intéressant. Et puis ben, nous sommes en Bourgogne, donc. Là, oui. Et pour conclure agréablement, eh bien, je voudrais vous laisser un petit souvenir de votre non a priori, et puis donc votre collègue pourra également voilà, Monsieur Jean-Pierre Revol également pourra en profiter. Donc voilà, c'est un bon souvenir de la région. Bah, c'était un plaisir de vous écouter. Et ben voilà, vous pourrez à l'occasion de ces 10 ans peut-être, hein, pas beaucoup plus quand même, hein, ouvrir la bouteille. Merci à tout le monde pour votre attention.